Cela peut heurter certaines sensibilités, raison pour laquelle il est accompagné du logo rouge. Il était une fois, il y a bien longtemps, mais pas si longtemps que ça, à Bethléem, lieu de pèlerinage tout près de Jérusalem, un homme qui avait 7 fils. Pardon, 8. Le petit dernier, on l'oublie toujours. C'est un garçon un peu différent des autres. Il ne ressemble à aucun autre, avec ses cheveux poils de carotte. Personne, mais vraiment personne n'est rouquin dans la famille. Mais d'où vient-il? C'est certainement un bâtard. Il n'est pas des nôtres et ne fera jamais partie du clan. Dès les premiers jours de sa vie, en tant que nourrisson, il ne trouve pas sa place parmi son clan. Il ne reçoit pas l'amour, l'affection et la sécurité dont il a tant besoin. Inconsciemment, il se sent mal aimé, non désiré. Dès son jeune âge, sa tribu se moque de lui. Tu pues de la gueule et des poils, comme une vache crevée qui se fait bouffer par de gros insectes immondes et des vers bêtes et dégueulasses. Il lui donne des coups de pied et lui tire sa longue tignasse flamboyante. Il est mis à l'écart, autant par son père que par ses frères. Sa mère ne fait pas partie du décor. Ce petit bout passe toujours en dernier, après, bien après tous les autres. Il le méprise, lui tire la langue, le chicane, jusqu'à ce qu'il se mette en colère. Et là, son père s'y met à son tour, le traite de tous les noms d'oiseaux. Le Benjamin ne comprend pas, cherche à tout prix l'approbation de sa fratrie et tout particulièrement de son père. Un regard chaleureux, un regard d'amour, de compassion et d'acceptance dont la bienveillance est tout ce dont il aspire. Il se fait tout petit, ne fait pas de vagues. Il est gentil, aimable et serviable. Il a toujours le sourire et répond aux attentes et aux exigences des siens. Il met ses besoins de côté afin de satisfaire le désir des autres. Il est en extase devant son père, le complimente et s'intéresse à lui. Désespérément, il essaye de convenir aux critères de son père, afin de recevoir en retour un bribe d'affection et d'amour. Ce garçon se construit dans une grande ambivalence. D'un côté, il cherche la reconnaissance, l'attention et la bienveillance des siens. Il fait tout ce qu'il peut afin d'assoupir ce colossal gouffre de désespoir et de manque d'amour. Il donne le meilleur de lui-même, mais tous les efforts qu'il fournit sont en vain. Rien, mais vraiment rien n'y fait. De l'autre côté, il se replie toujours plus sur lui-même. Il est rejeté des siens. À son tour, il les rejette et se dit à lui-même, « Comme ça, ils ne me décevront plus jamais. » Elles ne me feront plus jamais de mal. Les larmes aux yeux, il se construit un mur tout autour de lui et se dit intérieurement, même pas mal. Depuis ce jour, il met un masque sur son visage, sourit tout le temps et décide, ils ne me feront plus jamais mal. C'est fini, je ne leur ferai plus jamais confiance. Dès que la tristesse ou la colère l'envahit, il la suppresse afin de ne plus ressentir. C'est ainsi qu'il se construit du mieux qu'il peut. Comme on le dit si bien de nos jours, l'espoir fait vivre. Il garde une minuscule étincelle, un soupçon de perspective d'une vie meilleure. Afin d'arriver à ses fins, il change de stratégie. Il se retourne comme une crêpe, se rebelle et devient insolent. Il fait le contraire de ce qu'on attend de lui. Il est ingrat, méchant, répond et désobéit à son père. Il crie sur ses frères, les insulte, lève les yeux au ciel, traîne les pieds et les provoque. Les siens sont ahuris par son comportement. Eh bien, voilà, il nous montre enfin son vrai visage. Nous le savions bien. Ils n'en peuvent plus de son insolence. Ils perdent patience, se mettent dans une colère foudroyante, le rejettent définitivement et l'envoient loin, loin, mais très loin de la maison, s'occuper du bétail, des brebis. Vous connaissez le dicton, loin des yeux, loin du cœur. Dicton qui s'adapte tout particulièrement bien à la situation. C'est ainsi, abandonné des siens, qu'il devient berger. Cette histoire a de nombreux parallèles avec un personnage biblique. Savez-vous de quel personnage je parle ? Exactement. Merci, ça veut dire que c'était assez cohérent ce que j'ai dit. Merci beaucoup. J'ai intitulé ce message « Un roi selon le cœur de Dieu ». J'invite maintenant Samuel Ledesma à venir faire la lecture de 1 Samuel 16, 1 à 23.
Bonjour. Ok, alors, c'est cool, je lis les versets de Samuel, c'est sympa. 1 Samuel 16, 1 à 23. L'Éternel dit à Samuel, « Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül ? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et pars. Je t'envoie chez Isaïe, le Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. » Samuel dit, « Mais comment pourrais-je aller ? Saül l'apprendra et me tuera. » L'Éternel lui dit, « Tu prendras une génisse avec toi et tu partiras. Et tu diras, « Je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Tu inviteras Isaïe au sacrifice. Je te préciserai ce que tu dois faire et tu désigneras par onction pour moi celui que je t'indiquerai. » Samuel fit ce que l'Éternel avait dit et se rendit à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent et demandèrent, « Ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux ?» Il répondit, « Oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Consacrez-vous et venez avec moi au sacrifice. » Il fit aussi consacrer Isaïe et ses fils et les invita au sacrifice. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit en voyant Eliab, « Certainement celui que l'Éternel désigne par onction est ici devant lui. » Mais l'Éternel dit à Samuel, « Ne prête pas attention à son apparence et à sa grande taille, car je l'ai rejeté. En effet, l'Éternel n'a pas le même regard que l'homme. » L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Isaïe appela Abinadab et le fit passer devant Samuel. Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer Shammah et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer ses 7 de ses fils devant Samuel et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Puis Samuel dit à Isaïe, tous tes fils sont-ils là ? Il répondit, « Il reste encore le plus jeune, mais il garde les brebis. » Alors Samuel dit à Isaïe, « Envoie quelqu'un le chercher, car nous ne prendrons pas place avant qu'il ne soit arrivé. » Isaïe envoya quelqu'un le chercher. Il était roux, avec de beaux yeux et une belle apparence. L'Éternel dit à Samuel, « Lève-toi, verse de l'huile sur lui, car c'est lui. » Samuel prit la corne d'huile et le consacra par onction au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel vint sur David à partir de ce jour et par la suite. Samuel se leva et partit à Rama. L'Esprit de l'Éternel se retira de Saül et celui-ci fut tourmenté par un mauvais esprit envoyé par l'Éternel. Les serviteurs de Saül dirent, « Voici qu'un mauvais esprit envoyé par Dieu te tourmente. Que notre Seigneur parle, tes serviteurs sont à ta disposition. Ils chercheront un homme qui sache jouer de la harpe. Quand les mauvais esprits envoyés par Dieu sera sur toi, il en jouera et tu seras soulagé. » Saül répondit à ses serviteurs, « Trouvez-moi donc un homme qui joue bien et amenez-le-moi. » L'un des serviteurs prit la parole et dit, « J'ai vu un fils d'Isaïe, le Bethléemite, qui sait jouer. C'est un homme fort, vaillant, un guerrier. Il parle bien, il a une belle apparence et l'Éternel est avec lui. » Saül envoya des messagers à Isaïe pour lui dire, « Envoie-moi ton fils David, celui qui est avec les brebis. » Isaïe prit un âne qu'il chargea de pain, d'une outre de vin et d'un chevreau. Il envoya tout cela à Saül par l'intermédiaire de son fils David. David arriva vers Saül et se présenta devant lui. Il plut beaucoup à Saül et il fut désigné pour porter ses armes. Saül fit dire à Isaïe, « Je t'en prie, laisse David à mon service, car il a trouvé grâce à mes yeux. » Lorsque les mauvais esprits envoyés par Dieu étaient sur Saül, David prenait la harpe et en jouait. Saül se calmait, alors se sentait mieux. Les mauvais esprits s'éloignaient de lui.
Merci beaucoup Samuel pour cette lecture. C'est tout le chapitre, donc j'ai trouvé qu'il a vraiment super bien, vraiment, vraiment très, très bien lu. Et je pense qu'il pourrait faire du théâtre. Ce qui me concerne, parce qu'il a vraiment l'accent et tout. Et merci à Raphaël, parce qu'il a rétabli la technique. Donc, merci infiniment. C'est un récit bien connu. Voici un court descriptif du contexte historique important à garder à l'esprit. Vous vous souvenez que le peuple de Dieu réclamait un roi. Il voulait impérativement être comme les autres nations. Vous trouvez cet épisode au chapitre 8 de 1 Samuel. Ce n'était pas la volonté de Dieu. Le Seigneur leur a expliqué que ce n'était pas une bonne idée. Il voulait lui-même être le roi de son peuple. Mais ils n'ont rien écouté. Ils continuaient de réclamer un roi. C'est ainsi que Dieu leur donna ce qu'ils demandaient, un roi selon leurs souhaits, grand, beau et jeune. Saül était né pour être chef. Dieu a rejeté le roi Saül parce que celui-ci désobéit à maintes reprises aux exigences très précises de Dieu. De plus, il a rejeté la parole de Dieu. Pourquoi est-ce que Samuel pleurait-il? Était-il affligé parce que l'Éternel voulait mettre fin au règne de Saül? Qui pourrait prendre sa place? Il n'y avait personne à l'horizon qui puisse prendre cette place. Ou était-il triste que Saül se rebelle contre Dieu? Considérait-il le rejet du roi comme un échec personnel? Le texte reste muet à ce sujet. Ce qui est certain, c'est que Samuel avait de l'affection pour Saül. Il s'était beaucoup investi dans l'établissement de cette royauté. Qu'est-ce que ce passage, cette péricope nous apprend sur ces deux personnages? Samuel montre des caractéristiques très humaines. Il est à la fois éprouvé par la chute de Saül et impressionné par son pouvoir. Il s'attend à la réhabilitation de Saül. Il a du mal à accepter le rejet de Dieu. Quant à Saül, c'est un homme orgueilleux, jaloux, violent et vindicatif. Pour aller de Rama à Bethléem, Samuel devait passer par Gibéa, l'endroit où résidait notamment Saül, la tribu de Benjamin. Le roi déchu savait que Dieu avait choisi quelqu'un d'autre pour le remplacer. Samuel est terrorisé par Saül. S'il apprenait la raison de son déplacement, il le tuerait certainement. Il faut savoir que oindre un nouveau roi était un crime, une autre trahison, une sentence de mort pour lui et pour celui qui serait oint. Est-ce que son obéissance envers Dieu serait à l'origine d'une guerre civile? Dieu connaît le cœur de Samuel. Il ne le reprend pas pour son incrédulité et ses peurs. Bien au contraire, il lui dit « Je t'indiquerai alors ce que tu devras faire. Je serai avec toi. » Cela rassure qu'à moitié Samuel. Il se demande pourquoi et comment il serait accueilli à Bethléem. Dieu donne alors à Samuel une deuxième mission, offrir un sacrifice à Bethléem, comme il l'avait déjà fait à de nombreuses occasions. Cela faisait partie de son ministère. Un sacrifice, une génisse qui serait offerte aux vues de tous, même de Saül. En voyant arriver Samuel, les anciens furent remplis de frayeur. Un prophète ne se déplace pas pour rien. Qu'ont-ils fait de mal? Va-t-il découvrir les péchés? Vont-ils être jugés et condamnés par Dieu? Samuel les rassure. Non, ma venue est positive. Les sacrifices se déroulent en trois étapes. La consécration, le sacrifice et le repas sacrificiel. Voilà. Le texte ne donne aucun détail sur ces étapes, du fait qu'il s'agit plutôt d'un alibi. L'essentiel étant l'onction du nouveau roi. Samuel ne savait pas qui était l'heureux élu, celui qu'il devait oindre. Les enfants d'Isaïe n'ont jamais su pourquoi Samuel était venu dans leur famille. Ils se demandaient certainement ce que Samuel cherchait. Cherchait-il un apprenti prophète ou peut-être même un successeur? C'est ainsi que les fils d'Isaïe défilèrent les uns après les autres devant Samuel. Samuel vit le premier-né, Eliab. Il se dit « Oh oui, Seigneur, ça c'est un excellent choix. Il a même l'allure d'un roi. » L'Éternel, le Seigneur lui répondit « De quoi parles-tu? Ce n'est pas lui. » Eliab ressemblait à bien des égards à Saül. Ensuite, arriva le deuxième fils, Abinadab. Dieu le rejeta également. Et ainsi de suite, les sept fils passèrent devant Samuel et Dieu les rejetait les uns après les autres. Samuel ne comprenait plus rien. Il était venu oindre le nouveau roi, mais il n'était nulle part. Il croyait connaître la volonté de Dieu. Cependant, il faisait la même erreur que le peuple de Dieu quand ils ont choisi Saül. Il regardait aux apparences. Sans grande conviction, Samuel demanda à Isaïe : Tu n'as sans doute pas d'autre fils, n'est-ce pas ? Après un court silence, il reste le plus jeune, mais il garde les moutons. David n'est même pas invité à ce repas familial et sacrificiel avec Samuel. Isaïe a certainement dit « Je ne sais pas ce que tu cherches, mais avec le petit, tu perds ton temps. » Samuel insiste pour le rencontrer. David arrive, tout essoufflé des pâturages. Les cheveux, tout ébouriffés. Il ne s'est pas lavé ni changé. Il ne sent certainement pas la rose. Voilà, devant eux se trouve le roi d'Israël. David a une vingtaine d'années. C'est un berger, un poète, un rêveur. Il n'a aucune vêtements l'allure d'un roi. L'Éternel dit à Samuel, « Lève-toi, verse de l'huile sur lui, car c'est lui. » Samuel s'exécuta et consacra David par onction au milieu de ses frères. David retourna paître les moutons. Il ne se doutait de rien. L'Esprit de Dieu tomba sur lui et demeura sur lui à partir de ce jour-là. L'Éternel Dieu tomba à plusieurs reprises sur Saül, mais celui-ci ne demeura pas comme chez David. Cette onction de l'Esprit de Dieu les accompagnait afin de les rendre aptes à l'exercice de leur fonction royale, c'est-à-dire conduire Israël à la victoire. Le sacrificateur ou le prophète consacrant, en l'occurrence Samuel, avait une corne remplie d'huile qu'il versait sur le nouveau roi. Voilà, j'ai amené une de ces cornes. C'était une corne comme ça, qui était fermée de ce côté-là, et où il mettait l'huile. Et il la versait simplement sur la tête de la personne qui serait ointe. Quel est le sens de cette onction ? Dans l'ancien Israël, l'onction avait différentes significations. Notamment, les prêtres étaient oints le jour de leur investiture. Ainsi que les objets de culte, afin de les rendre sacrés. L'onction servait également à consacrer le roi à Dieu en vue de la fonction royale. Le sacrificateur ou le prophète qui pratiquait l'onction établissait un lien fort avec le bénéficiaire de l'onction. De plus, lorsqu'un personnage était oint, au nom de Dieu, Dieu lui-même se portait garant et bénissait la personne. Comment comprendre le transfert de pouvoir de Saül à David ? 1 Samuel 16, 13 à 14. Samuel prit la corne d'huile et le consacra par onction au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel vint sur David à partir de ce jour et par la suite. Samuel se leva et partit à Rama. L'Esprit de l'Éternel se retira de Saül et celui-ci fut tourmenté par un mauvais esprit envoyé par l'Éternel. Ici, l'accent est mis sur le déplacement de l'Esprit et le départ de Samuel. Ces mouvements symbolisent la transmission de pouvoir de Saül à David. Voici les quatre mouvements. L'Esprit de l'Éternel vint sur David. Samuel se leva et partit pour Rama. L'esprit se retira de Saul. Et un mauvais esprit envoyé par l'Éternel tourmenta Saül. Regardons ces quatre mouvements un peu de plus près. Le premier mouvement, l'Esprit de l'Éternel vint sur David. Ce mouvement de l'Esprit de Dieu est un signe de la faveur de l'Éternel, légitimant la royauté de David, alors que Saül était encore roi. Dans l'Ancien Testament, quand l'Esprit de Dieu saisit une personne, c'est pour l'accomplissement d'une tâche bien particulière, notamment le ministère prophétique. Prononcer des paroles venant de Dieu connu sous oracle du Seigneur. Généralement, c'était pour une période limitée dans le temps. Dans le cas de David, c'est un schéma inhabituel. 1 Samuel 16, 13. L'Esprit de l'Éternel vint sur David à partir de ce jour et par la suite. David fut revêtu de l'Esprit d'une manière plus permanente. Le deuxième mouvement, Samuel se leva et partit à Rama. Ce mouvement montre que maintenant que l'Esprit repose sur David, sa présence n'est plus indispensable. L'Esprit de l'Éternel se retira de Saül. Ce mouvement montre que l'Éternel a quitté Saül. C'est à la fois, dans l'Ancien Testament, c'est la première fois que ce mouvement est montré dans l'Ancien Testament où l'Esprit de Dieu abandonne une personne. Quelle tragédie! Un mauvais esprit envoyé par l'Éternel tourmenta Saül. En ce qui me concerne, je préfère la traduction suivante. Un mauvais esprit envoyé avec la permission de l'Éternel le tourmenta. Le départ de l'Esprit de Dieu ouvre la porte aux agissements des mauvais esprits. Voilà comment les théologiens interprètent la signification de mauvais esprit. Certains y voient une possession démoniaque envoyée comme punition divine. D'autres affirment qu'il s'agit d'une attaque ou une influence démoniaque. Ou encore, un esprit de mécontentement créé par Dieu dans le cœur de Saül. Ce qui est certain, c'est que le mauvais esprit a trouvé en Saül un terrain propice à son action. Lorsque Dieu retire son esprit protecteur, il laisse le champ à Satan. Les premiers signes survinrent après la confrontation avec Samuel au sujet de sa désobéissance, sa rébellion contre Dieu. Saül était bien fragilisé psychologiquement. L'Éternel l'avait rejeté et abandonné. De plus, les Philistines étaient hostiles à l'égard d'Israël. J'ai décidé d'aborder le chapitre en entier, car il y a une progression juste et extraordinaire. L'auteur met à côté, côte à côte, 1 Samuel 16, 1 à 13 et 16, 14 à 23. Ce chapitre montre l'ironie dans sa plus grande splendeur. Le roi rejeté, Saül, a été apaisé par le roi nouvellement nommé et couronné. Mais il ne le savait pas. 1 Samuel 16, 22 à 23. Saül fit dire à Isaïe, « Je t'en prie, laisse David à mon service, car il a trouvé grâce à mes yeux. » Lorsque le mauvais esprit envoyé par Dieu était sur Saül, David prenait la harpe et en jouait. Saül se calmait alors et se sentait mieux. Et le mauvais esprit s'éloignait de lui. Ironie du sort, n'est-ce pas remarquable? David n'est pas seulement le choix de Dieu, il est également le choix de Saül. David plus beaucoup à Saül. Saül admirait son charisme, son apparence et ses talents musicaux. David est choisi par Dieu et par Saül. Quelle confirmation! Le roi choisi par Dieu est un moyen de grâce pour Saül. Voici le miraculeux de Dieu. L'Esprit de Dieu agissait à travers David, en neutralisant temporairement l'action du mauvais esprit. Le Seigneur a vraiment de l'humour. David va progressivement gagner l'affection de tous. Il fait paître les moutons. Ensuite, il fera paître et conduire le peuple de Dieu. Les choix de Dieu sont souvent déroutants. David était le Benjamin de la fratrie. Il était certainement trop petit, trop ci, trop ça, pas assez âgé. Ce qui est certain, c'est qu'il était méprisé et certainement rejeté des siens. Il ne répondait tout simplement pas aux critères et aux attentes. Il n'avait pas le profil, au point que son père l'avait simplement oublié. Dieu appelle quelqu'un qui n'a aucun mérite et qui, en plus, n'a rien demandé. Dieu l'a conduit des pâturages au trône. C'est par l'école des coups durs que David est devenu roi. C'est une excellente nouvelle. C'est Dieu qui choisit. L'homme n'a aucune part dans ce choix. Heureusement, Dieu n'est pas comme nous. Nous avons tendance à être impressionnés par le succès, l'apparence, l'argent, le pouvoir, les titres, les diplômes, le charisme, etc. L'Éternel Dieu ne regarde absolument pas ces choses. Il regarde au cœur, c'est-à-dire à la disposition intérieure de l'homme. Il choisit ce que le monde néglige. Considérez, frères et sœurs, notre propre appel. Il n'y a parmi vous ni beaucoup de sages selon les critères humains, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour couvrir de honte les sages, et Dieu a choisi les choses faibles du monde pour couvrir de honte les fortes. Dieu a choisi les choses basses et méprisées du monde, celles qui ne sont rien, pour réduire à néant celles qui sont, afin que personne ne puisse faire le fier devant Dieu. 1 Corinthiens 1, 26 à 29. Au final, personne ne peut aller à l'encontre du choix de Dieu. Dieu choisit des cœurs bien disposés. Psaume 51, 12. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Faisons de ce verset une prière quotidienne. Ne soyons pas envieux et jaloux envers les autres, envers ceux qui ont ce que nous désirons. Soyons fidèles dans les petites choses, car Dieu nous prépare de plus grandes choses. David est un exemple impressionnant, choisi par Dieu pour devenir le prochain roi d'Israël. Il sert Saül, ne se met pas en avant. Il attend patiemment le temps de Dieu. David est l'instrument de grâce envers Saül. N'oublions pas que par la suite, Saül mettra tout en œuvre pour le tuer. David dira ceci au chapitre 26 de 1 Samuel en parlant de Saül. Je ne me risquerai pas à porter la main contre celui que l'Éternel a désigné par onction. Waouh ! Malgré le fait que Saül voulait le tuer, David était entièrement soumis à la volonté de Dieu. Je vous invite à la prière. Merci Seigneur pour cet exemple de David, cet exemple d'humilité. Merci pour ce qu'il nous apporte au travers de l'Écriture. Merci pour sa vulnérabilité, pour son humanité, qu'on retrouve souvent chez nous aussi, et qu'on puisse le voir et s'identifier avec lui. Merci de nous donner des cœurs bien disposés à ton égard, et à l'égard de nos frères et sœurs en Christ. Que nous soyons connus et reconnus pour avoir des cœurs qui te cherchent par-dessus tout et qui veulent faire ta volonté, Seigneur. Ô Dieu, crée en moi, crée en nous un cœur pur. Renouvelle en moi, renouvelle en nous un esprit bien disposé. Amen.
Merci à Daniela pour son message. On va maintenant passer au temps des annonces. Donc la première annonce que j'aimerais vous faire, c'est donc l'offrande. Les troncs se trouvent comme à l'habitude dans cette période à la sortie. Donc sentez-vous libre de donner selon ce que votre cœur vous dit. Et c'est une manière de pouvoir rendre gloire à Dieu et le remercier pour ses bénédictions qu'il nous donne chaque jour. Donc faites bon accueil au tronc à la sortie. La deuxième annonce, donc merci de garder les distances et de veiller à rester aussi par groupe de 5 à l'intérieur de la salle. À l'extérieur, on peut être un peu plus nombreux, mais à l'intérieur, c'est vraiment important. Donc le petit rappel. Merci beaucoup aussi à toutes les personnes qui se sont impliquées pour ce culte. Votre aide est vraiment précieuse et votre contribution aussi. Je tiens également à remercier particulièrement Théo et Alma Abeguer qui s'occupent régulièrement des locaux et des alentours de l'église. Un grand merci à eux. Ils sont là à l'arrière de la salle. Dimanche prochain, 14 mars, c'est Daniela qui fera la présidence du culte et c'est Stéphane Dezès qui s'occupera du message. Merci aussi aux parents d'aller rapidement chercher vos enfants en bas pour libérer Talita et la personne qui est à la garderie. Et voilà, est-ce que quelqu'un d'autre a encore une annonce ? Non, c'est tout bon, extra. Du coup, je vais d'abord prier pour clôturer la célébration et ensuite je ferai encore une petite prière d'envoi par deux versets. Ah. Okay. Yes.
Si vous voyez Leila Sprunger après en sortant, je vous invite à la féliciter et puis à la remercier parce qu'elle a spontanément décidé et accepté d'aller à la garderie aujourd'hui parce qu'il y a eu un petit couac. Donc si vous la voyez, félicitez-la puis remerciez-la, ça l'encouragera. Merci beaucoup.
Donc je vous invite à vous lever. Je vais prier. Merci papa pour ce que nous avons pu recevoir de toi ce matin. Bénis et accompagne chacune dans cette semaine qui s'ouvre. Aide-nous aussi à nous approcher de toi et à vivre avec un cœur pur comme nous l'avons entendu durant le message. Merci pour ta présence, ton amour et ta grâce à chaque instant. Merci de nous porter, d'être avec nous. Et on veut vraiment regarder à toi. En cette période. En ton nom, Seigneur Jésus. Amen. Et j'ai encore à cœur de vous partager du coup deux versets pour la prière d'envoi. C'est dans les psaumes, dans le psaume 37, les versets 3 et 4. Confie-toi en l'Éternel et fais le bien. Aie le pays pour demeure et que ta fidélité soit ta nourriture. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Bon dimanche à chacun, soyez bénis dans cette nouvelle semaine.